Voilà, merci beaucoup déjà de l'invitation. Et on m'a demandé donc en fait de présenter mes recherches. J'ai fait ma thèse il y a très longtemps, en 93, sur l'histoire du syndicalisme du secteur public en Angleterre. Et j'ai travaillé plus récemment à nouveau sur le syndicalisme, sur le racisme, sur la religion. Mais aujourd'hui, je veux présenter mon approche à l'histoire de la chanson populaire, parce que quand même, les 4/5 de ce que j'ai fait depuis 10 ans, c'est là-dessus. Alors, mon objectif principal ces dernières années est de montrer que les chansons populaires de chaque période historique ne servent pas à illustrer l'histoire, avec une H majuscule qui se passerait ailleurs, dans les bureaux des généraux ou dans le Parlement, mais que ces chansons font partie de l'histoire, car elles sont intégrées à des activités populaires de masse. Des millions de gens se déplacent pour chanter ensemble ces chansons que je vais vous présenter, et alors on peut les utiliser pour découvrir beaucoup sur le non-dit de ces périodes, et l'étude du non-dit, c'est une des préoccupation principale de l'histoire culturelle. Personnellement, j'ai travaillé surtout sur la période 1880 à 1920, donc une période où l'Angleterre est en transformation rapide, les guerres coloniales de la fin du 19e siècle, la montée du droit de vote en 1884 pour 65% des hommes, et les autres hommes et une bonne partie des femmes en 1918. Une période où il y a les premières lois sociales de 1906, bien sûr la Première Guerre mondiale, souvent présentée comme le déluge qui va transformer la société, et la division d'Irlande, pour ne citer que quelques exemples des transformations de ces années-là. Alors je vous présente, mais en mettant bien intégré à la tradition française, mon plan. Donc je vais d'abord parler de quelques traditions de comment on étudie la musique. Ensuite, les différents points de vue qu'on peut avoir sur une chanson, quelques-unes des explorations de méthodologie possibles pour sortir des conclusions du répertoire, de la performance, des processus, et puis un mot sur l'étude comparative, et tout à la fin, trois petits exemples des questions de recherche que j'ai mis en mouvement. Par rapport aux chansons de la Première Guerre mondiale. Alors pour situer mon approche, je vais d'abord regarder donc les courants existants qui travaillent sur la musique, qui parfois ont existé depuis bien longtemps. Alors il y a tout d'abord donc la musicologie traditionnelle qui est existante maintenant depuis plus d'un siècle, et la musicologie dont sa plus grande partie fait vivre une histoire de la musique bien spécifique qui est généralement compris comme étant la vie et les œuvres des grands compositeurs. La naissance et l'évolution des genres musicaux, tels que la symphonie ou le motet, et l'histoire des instruments et comment ils figurent dans les œuvres canoniques. Donc c'est une histoire de la musique qui privilégie très largement la musique savante occidentale, souvent à l'exclusion d'ailleurs de la musique non savante ou de la musique non occidentale. Et en cela, cette histoire-là suit une division qui garde sa force aujourd'hui dans bien de domaines, les stations de radio musique classique et les stations de radio musique populaire restent généralement distinctes, parce que les auditeurs, à mon avis, veulent se définir par rapport à cette séparation. Et cette histoire, donc l'histoire mise en œuvre par la musicologie, généralement constituée d'une histoire des grandes œuvres et pas l'histoire de l'ensemble des œuvres d'une période donnée. Ce qui constitue une approche qui ne peut pas convenir à l'historien social ou culturel. Alors, la version la plus stéréotypée, c'est dire, bon, regardez la musique qu'écoutent les jeunes aujourd'hui et comparez-le à Beethoven et Bach. Tandis que, bien sûr, quand Beethoven écrivait, il y avait beaucoup de gens, des milliers de gens qui écrivaient des choses bien moins bien. Voilà. Alors, ici, nous voyons deux exemples de livres récents où nous voyons certains des préoccupations. Donc, à droite, très typique, publié en 2000, celui-là, donc Nouveau Dictionnaire de la Musique. Et vous voyez que c'est illustré, donc c'est pas marqué musique classique ni musique savante. N'empêche que les quatre illustrations montrent bien ce qu'on va avoir à l'intérieur. Donc, les quatre se réfèrent donc à la musique classique occidentale. Ici, nous deux avec Histoire illustrée de la musique, et nous voyons qu'il y a eu un petit changement. Non, c'est pas, il y a encore les anciens qui continuent, mais celui-là, il montre qu'il y a des mouvements en cours. Donc là, on voit beaucoup donc, de guitares électriques, des instruments. Donc, essentiellement, c'est la guitare électrique, aussi les tambours de type africain. Donc on voit qu'il y a une tentative de dire qu'il y a plusieurs types de musique. Et pourtant, des tensions subsistent. Depuis 40 ans, on voit dans l'université, mais aussi dans la presse dite sérieuse et ailleurs, que la musique populaire commence à se tailler très lentement une place. Donc si cette vision un peu traditionnelle de la musique existe depuis longtemps, il y a eu aussi pendant le XXe siècle une série de changements qui vont rendre possible d'autres visions. Tout d'abord, le XXe siècle a vu des transformations radicales dans la nature de l'histoire comme discipline, donc discipline devenue métier professionnel au XIXe siècle. Et ces changements sont surgis des sociétés changeantes, la montée de la démocratie, le Royaume-Uni est devenu un pays pleinement démocratique après 1928. En 1900, à peu près 35% des adultes avaient le droit de vote. L'expansion rapide dans les années 1950 à 1980 de l'enseignement supérieur donnait lieu à une expansion massive du nombre d'historiens et un élargissement considérable de leur base sociale. Plus besoin de forcément de venir d'une famille riche pour être historien. Et donc nous avons vu, et je pense que c'est connu de beaucoup d'entre vous, donc l'arrivée de l'histoire par le bas, l'histoire des gens ordinaires, l'histoire aussi du non-dit, du typique, du rituel, de l'accepter. Et c'est une tendance qui a été très longue, qui existe depuis longtemps en France, bien sûr depuis 1929, avec la mise en place de l'école des annales. Et en Angleterre, surtout dans les années 50-60, sont les représentants les plus connus. Donc ici, nous avons donc deux exemples des Français, Emmanuel de Roy Ladurie, son histoire de Montaillou, village occitan, donc concentré sur un seul village. C'était une idée révolutionnaire pour l'histoire à l'époque. Et puis l'histoire sur la longue durée de Marc Bloch, qui a également, je dis pour les étudiants, qui a également écrit un livre, Le métier d'historien, qui est incontournable. Les rois thaumaturges, ça veut dire les rois qui peuvent vous guérir, c'est ça le sens. Et il étudie cette croyance sur une très longue période. Donc ça, version française. Et en Angleterre, peut-être les deux les plus connus, donc c'est The Making of the English Working Class de Thomson, qui souligne comment la conscience de classe de sorte ne surgit pas uniquement des changements économiques, mais est aussi un changement de culture, un changement de représentation de soi-même. Et The World Turned Upside Down, qui est une histoire par en bas de la Révolution anglaise, de la guerre civile du 17e. Tout ça, donc, possibilité d'une montée lente mais réelle de l'histoire par le bas. En Angleterre, largement influencé par les historiens du Parti communiste britannique, parti qui n'est jamais devenu un parti de masse, mais qui jouissait d'une grande influence dans les syndicats et parmi les universitaires. Alors cette histoire met en cause l'intérêt exclusif que portaient les historiens aux grands hommes et aux grands événements. Et alors, elle ne pouvait qu'encourager ceux qui ne voulaient pas se limiter dans le domaine de la musique à l'étude des grandes œuvres canoniques. Parallèlement, mais un peu plus tard, en Angleterre au départ, nous voyons dans les années 70, souvent dans les mêmes universités où se développent les études culturelles, les cultural studies, la naissance des études des musiques populaires, popular music studies. Et peu à peu, on voit ouvrir des licences et des masters en popular music studies en Angleterre. Il en existe maintenant en France, mais il y en a 3 ou 4 masters. Ça s'est consacré avec la fondation en 1981 du International Association for the Study of Popular Music, et donc là il y a le site web aujourd'hui et qui donc là il y a un appel à articles sur la musique dans les jeux vidéo. Donc c'est pour montrer un des aspects, mais je vais vous en montrer d'autres. Alors l'objectif des Popular Music Studies n'est pas de défendre en bloc l'ensemble des productions rock et pop, mais c'est tenant et insiste que la musique populaire, le rock, le reggae, le rap, la techno, constituent de phénomènes sociaux importants et dignes d'être analysés. Que ce soit à l'intérieur de Popular Music Studies ou à l'extérieur, la musique populaire, ça suscite beaucoup de passion. Alors, il y a un merveilleux article écrit récemment par Simon Smith, « Why does music make people so cross ?» Alors, pourquoi la musique, ça énerve tellement? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup John Grisham et ses polars, mais personne ne porte un t-shirt « John Grisham ». Et personne n'engueule ses amis parce qu'il n'aime pas John Grisham. Tandis que dans la musique populaire, ce sont des expériences courantes. Il y aura ceux qui s'y opposent aux Popular Music Studies. Le plus célèbre étant le philosophe et musicologue allemand Theodor Adorno, qui va s'attaquer pendant 30 ans à la musique populaire, qu'il considère un produit commercial sans valeur esthétique, fabriqué par une industrie culturelle uniquement à but commercial et consommé par une population rendue bête par la même industrie. Alors, les idées de Adorno vont perdre peu à peu leur influence sur les 40 dernières années, essentiellement parce que les études empiriques sur l'industrie de la musique populaire et ses produits ne confirment pas sa vision. Et aussi, je devrais dire, parce que c'est une vision qui veut dire quelque part que rien circuler, il n'y a rien à voir. Parce que si l'industrie culturelle crée les besoins et crée tous nos goûts, l'arrivée du rap, l'arrivée du punk, ça change rien, c'est simplement une manipulation de plus, ça ne reflète rien de la société. Donc évidemment, quand je le présente comme ça, c'est pas satisfaisant. Et bon, j'aurai plus de choses à dire sur Adorno s'il y a des questions. Alors, les Popular Music Studies continuent à se développer jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas non plus absolument accepté. C'est-à-dire que j'ai eu dans des auditions pour des postes de professeur quelques collègues qui m'ont regardé de travers parce que c'est un sujet qui n'est pas tout à fait... il faut croire qu'ils n'étaient pas à Rouen, hein, sinon je ne serais pas là. Alors, pour vous donner un peu une idée où ils en sont, le Ashgate Popular and Folk Music Series, c'est le plus prestigieux des collections de livres sur le sujet, et ça, c'est 8 de leurs publications ces derniers 3 ans. Donc, vous voyez que ce soit les clips vidéo, le chanson d'auteur, la musique ethnique, le texte, l'hip-hop, des passe-temps liés à la musique sans être musicale, comme la collection, collectionner des disques, que ce soit Michael Jackson et les questions de représentation du noir et du blond, il y a un nombre de questions posées qui est extrêmement large. Si ce domaine très dynamique de recherche comporte un défaut du point de vue de l'historien que je suis, ce serait sa tendance au présentisme. En effet, 99% des productions, des livres, des articles concernent des musiques depuis 1950. Alors, il y a de nombreuses raisons pour ceci. Les chercheurs souvent veulent étudier la musique de la jeunesse, par exemple. Mais il doit y avoir d'autres. Et je pense qu'aussi l'influence de l'industrie musicale, il y a de l'argent qui est disponible si on étudie des phénomènes récents. Hein. Mais aussi, je pense que quand même, c'est souvent que les gens ils veulent faire un livre sur la musique qu'ils adoraient quand ils étaient un peu plus jeunes. On a souvent l'impression que la musique était mieux quand elle était plus jeune. En fait, c'est simplement que nous, on était plus beaux et plus doués pour draguer, et alors le monde était mieux aussi, hein. Ça semble évident. Ok, et alors, ce qui manquait pour moi, c'était l'histoire des musiques populaires plus lointaines, et je veux parler notamment de l'histoire des musiques populaires avant le gramophone. Pas avant l'invention du gramophone en 1880 ou 70, mais avant la généralisation du gramophone. Parce que avant la fin des années 20, avec la généralisation de la radio, et le début de la génération du gramophone, l'essentiel de l'industrie de la musique populaire, donc en Angleterre, parce que c'est ça que je sais, tourne autour de le show, le spectacle live, et la partition. Et la partition, ça peut se vendre par millions, et pour la petite anecdote, en 1914, il y a près de 4 millions de pianos en Angleterre. Ça, c'est un pour 10 personnes, bébé compris. Donc c'est une activité de masse, le piano, et donc la partition qu'on achète pour jouer et chanter en même temps. Il y a donc eu quand même quelques exemples d'études de la musique avant le gramophone. Ici, nous avons une certaine série. Parfois, c'est simplement des recueils. A collection of Irish popular songs, broadsheet ballads, donc du 18e, 19e. Parfois des commentaires, Roy Palmer, c'est une collection de chansons de type social, de chansons politiques, si vous voulez, avec des commentaires, mais d'un chanteur engagé, qui sont très intéressants, mais ce n'est pas une tentative d'une étude historique scientifique. Les autres, c'est plus de la recherche universitaire. Le grand-père de l'étude de music hall, donc le music hall qui a dominé l'industrie musicale en Angleterre de 1860 à 1920, c'est le grand morceau, le music hall, donc le théâtre de music hall. Et c'est Peter Bailey qui est un peu le grand-père. Et dans son introduction à ce livre, il dit « Il est dommage que personne n'a fait ceci, 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 ceci. » Il fait une liste de 10 trucs. J'en suis au troisième. Alors, je suis un peu la liste course. Blackface Minstrelsy, bon, je ne peux pas tous les décrire en détail, mais il y a eu quelques éléments. Donc ça, c'était un petit peu la situation quand je m'y suis lancé sur l'étude des chansons populaires d'antan. Et un de mes projets a été de puiser dans deux traditions. Donc d'abord, appliquer au début du XXe siècle des questions et des méthodes qu'ont utilisées ces gens pour le XIXe. Et deuxièmement, prendre certains des concepts développés par les Popular Music Studies pour la musique récente et voir comment on peut les appliquer à ma période préférée, donc 1880-1920. Alors passons à l'objet d'étude principale, donc la chanson. Je voudrais évoquer plusieurs manières de considérer la chanson. En tant qu'objet d'étude, nous cherchons à en comprendre la grammaire. La grammaire de la chanson, c'est-à-dire les règles et les coutumes qui gèrent sa production, sa réception et sa signification. Et à chaque fois, je me servirai d'exemple de ma période 1880-1920. Alors, tout d'abord, donc la chanson et le texte. Il est évident que le texte est un élément central de la chanson. Même on dit en français pour certains types de chansons, une chanson à texte. Tandis qu'en fait, des chansons sans texte, c'est difficile à imaginer. Voilà. voilà, donc c'est toute une religion. Je veux dire, c'est toute une conception. Et alors, j'ai ici un texte pour vous. C'est une chanson, un texte de 1906, chanté sur la scène du musical par Gus Allen, jouant son personnage d'ouvrier urbain grincheux. Some people knuckle down through being out of work, but I ain't one of them, not me. If a gaffer starts to nag, I soon picks up my bag and I flops him on with this, do you see? It don't do to let people think you're on the rocks, because they're bound to turn their heads the other way. But it makes no odds to me what the future's going to be, so long as I've got all I want today. So what's the use of kicking up a rat if there ain't no work about? If you can't get a job, you can rest in bed till the school kids all comes out. If you can't get work, you can't get the sack. That's an argument that's sensible and sound. Lay your head back on your pillow and read your Daily Mirror and wait till the world comes round. Ok, donc chanson très populaire qui aura vendu des centaines de milliers ou peut-être des dizaines de milliers de partitions. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans parce qu'en réalité c'est une chanson qui serait connue par l'ensemble de la population. Ceux qui sont trop pauvres pour aller à music hall ou trop bourgeois pour vouloir aller au music hall connaîtront quand même à partir des chanteurs de rue ou bien à partir des partitions que même dans les familles bourgeoises, les jeunes de la famille joueront au piano. Alors le texte est celui d'un narrateur ouvrier qui recommande de ne pas se presser lorsqu'on est en chômage, de chercher du travail et de ne pas accepter n'importe quelle condition de travail mais préférer casser la gueule au contremaître. Alors le texte nous replonge dans l'Angleterre d'il y a 110 ans, où le chômage n'était quasiment jamais indemnisé. Le licenciement pouvait intervenir toujours au lendemain sans compensation. Oui, c'est vrai que casser la gueule au contremaître ou enlever la chemise du DRH, c'est très d'actualité. Donc, si on était en chômage, la famille ne mangeait pas à sa faim. Dès quelques jours de chômage. C'est un texte de contestation, quelque part un texte radical. Même aujourd'hui, je pense à un rappeur qui scandait que si le manager chez McDo, ou là où tu as décroché un petit boulot, t'embête, tu n'as qu'à lui casser la gueule et rester chez toi à jouer des jeux vidéo. Ce serait considéré comme un texte quelque part contestataire. Et il est joué dans le musical devant un public socialement très mixte. Les ouvriers, les nombreux employés de grands magasins, de grandes banques, les dactylos et autres vendeuses, ces gens-là remplissent les balcons. Dans les sièges plus chers, les bourgeois, graduellement convaincus à cette époque que le musical était devenu respectable et avait perdu quasiment toute sa vulgarité. Mais en même temps, c'est un texte de contestation individuelle et qui permet différentes réceptions. La contestation au musical est presque toujours individuelle. Et donc, par exemple, la vague massive de grèves qui traverse le pays entre 1911 et 1914 ne donne pas naissance à une série de chansons de musical en défense des grévistes, malgré le fait que ces grèves étaient très populaires. Donc, il y a le côté contestation, mais il y a aussi une autre réception possible, c'est que le personnage de Gus Allen, qui est habillé dans ouvrier stéréotypé, et pour l'autre partie du public qui n'a pas la même sympathie pour les ouvriers, c'est un clown. Et il est vu comme un clown. Alors, c'est un exemple, c'est un seul exemple que je vais vous donner là, mais c'est très typique parce qu'il y a une réception ambiguë. Alors, c'est parfait pour le musical parce que l'artiste du musical, on est toujours à deux navets avant la fin. C'est-à-dire que il faut réussir à tous les. La plupart des chanteurs de musical, s'ils savent ce qu'ils vont manger demain, ils ne savent pas comment ils vont manger le mois prochain. C'est très très précaire. Et alors ils sont obligés de présenter des chansons que tout le monde a envie de chanter. Parce que c'était le dernier élément que je n'ai pas dit. Le refrain doit être chanté par l'ensemble. Si la moitié ne chante pas, vous n'avez plus de boulot la semaine prochaine. Alors les textes doivent être consensuels, même si c'est un consensus parfois qui se fabrique sur une ambiguïté. Donc voilà, donc analyser le texte des chansons est donc bien sûr indispensable. L'artiste est expert à juger ce que veulent entendre et chanter les classes populaires qui font la majorité de la population. Les chansons n'illustrent pas tellement les opinions de ceux qui les ont fabriquées, ni d'ailleurs les opinions de ceux qui les écoutent, mais beaucoup plus les peurs, les angoisses, les fantasmes, les besoins, le non-dit. Et ça, j'avais remarqué particulièrement quand j'ai cherché à voir un très grand nombre de chansons pendant la Première Guerre mondiale qui traitent des nouveaux rôles des femmes. Et moi, je cherchais les chansons qui disaient que c'était super que les femmes avaient plus de rôles et ceux qui disaient que c'était mauvais. Il y a ni l'un ni l'autre. Presque l'ensemble des chansons sur cette question, il y en a 60 ou 70, expriment que c'est inquiétant tout ça. Donc, c'est ni pour ni contre, c'est simplement inquiétant. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que si on regarde une question politique dans la chanson, il ne faut pas chercher seulement une opinion, mais quelque chose de beaucoup plus difficile à définir. Bien sûr, ce n'est pas seulement un texte, c'est aussi une mélodie. Et donc là, nous avons la mélodie pour une chanson de Harry Lord, donc de la Première Guerre mondiale, de 1916, The End of the Road, le refrain étant « Keep right on till the end of the road ». Donc une chanson pro-guerre, une chanson pour continuer la guerre. Et là, je dois pouvoir vous faire jouer un tout petit extrait, là, si ça marche. Misk. I can't read this. No, it's not there, is it? I think it's this one. This one will do. Uh, Ça suffira pour la faire. En fait, c'est une autre chanson, mais ce n'est pas important parce qu'en fait, je voulais tout simplement démontrer que les mélodies sont très simples. Alors, ce qui est intéressant, et je dis souvent à mes étudiants dans l'histoire, d'ailleurs, on voit que c'est très simple, même moi, je suis pas très musical, je vois que c'est très simple. Je dis souvent à mes étudiants que la seule question intéressante pour un historien, c'est pourquoi. Alors, pourquoi ils sont très simples? Eh bien, je vais vous le dire. L'artiste musical change de ville chaque semaine. La musique est jouée par l'orchestre du théâtre qui apprend la musique le lundi matin pour le jouer dès le lundi soir. Alors même si ce sont des musiciens quand même assez doués, et c'est pas le moment de faire des musiques ambitieuses, très originales ou expérimentales. Deuxième chose, le refrain de la chanson doit être repris en chœur par le public dans son ensemble. Mais ils ne l'ont pas déjà entendu à la radio. Ils ne sont pas de radio. Ils ne l'ont pas déjà entendu au gramophone. Ils l'ont peut-être entendu le mois dernier, on a chanté ensemble. Donc. Mais n'empêche que, tout comme les musiques de cantiques religieuses, il faut que ce soit assez simple. Et c'est vrai que d'un point de vue musical, le musical de la Première Guerre mondiale, après, une fois que vous avez écouté 2-3 heures, il vous faut bien une dose de punk rock pour vous réveiller. Voilà donc pour la musique. Troisième élément, donc la chanson et la performance. Le musical a été décrit comme la victoire de la performance sur le contenu. Et d'ailleurs, c'est une expression qu'on pourrait appliquer plus largement à la chanson populaire. Si on prend l'exemple de la fameuse chanson des Beatles, « She loves you, yeah, yeah, yeah », et on écrit, on traduit le texte, on a « Elle t'aime, oui, 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 elle t'aime, oui, oui, oui », et avec un amour comme celui-là, vous savez que vous devrez être heureux. On ne peut pas dire que c'est de la grande poésie. Et effectivement, la performance est essentielle à la musique populaire en général, et notamment donc au musical. Pour un exemple plus récent, ce serait Katy Perry, hein? I kissed a girl, I liked it, the taste of her cherry chapstick. Le texte en soi, sans la performance, est très extrêmement plat. Alors, pour percer dans la chanson populaire aujourd'hui, une voix expressive et bien formée est un grand atout. Mais il y a un siècle, c'était plus compliqué. Il n'y a pas de microphone sur scène avant 1927. Les nouveaux musicals ont 1500 ou 2500 places. Alors, vous êtes là, vous devez... il faut projeter sa voix. D'où l'importance du refrain repris en chœur, pour qu'on repose la voix un peu. Mais aussi, il y a beaucoup moins de types de voix qu'on peut utiliser quand on a un grand théâtre et on n'a pas de microphone. Et alors, le crooner, justement, la voix intime, tout ce qu'on peut faire, comme fait la chanteuse française Camille, tout ce qu'on peut faire avec un micro, avec sa voix, quand on a un micro juste là, avec un bon micro moderne en plus, là, tout cela est impossible. Alors, qu'est-ce qui est fait par les voix à l'époque? Bon, il y a une série de tactiques différentes. Tout d'abord, très souvent, les artistes jouent un personnage, donc les accents régionaux, c'est très régional. C'est très courant et très souligné. On a ici quelques exemples. Je vais vous en mettre deux ou trois. Sam Mayo. Ok, ça c'est Sam Mayo. Et bon, je pense qu'il y a toute une série de questions qu'on peut se poser sur les voix. J'ai fait un travail sur comment est utilisée la voix dans le musical pendant la Première Guerre mondiale. Celui-là, ce qui est intéressant, en fait, il a une voix très épais, quelque part. On dirait presque qu'il a trop bu. Mais aussi, il faut noter qu'à l'époque, ça peut être vu comme quelque chose de positif. Un homme qui sait boire, c'était pas forcément quelque chose de critique. La consommation de l'alcool était autrement plus importante qu'aujourd'hui. On se déplaçait à Londres le samedi soir et les hommes inconscients, parce qu'ils avaient trop bu, on en voyait et ça choquait pas. Et même, pas seulement des hommes, j'avais les chiffres quelque part du nombre de femmes arrêtées pour être ivres sur la voie publique en 1913. Et c'était plusieurs. J'ai oublié, c'était 14 000. Mais c'était quelque chose de tout à fait, ou 40 000, je ne sais pas, mais c'était quelque chose de tout à fait significatif, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Parce que, bon, c'est la vieux question du condescendence of posterity, l'idée qu'on regarde les gens du passé, et on se dit, bon, ils étaient plus bêtes que nous, ils étaient moins sophistiqués que nous, ce qui est loin d'être sûr. Donc, celui-là, très épais, ça exprime une certaine fatigue de la vie, peut-être, mais c'est pas forcément évident d'analyser. Mais il y a d'autres éléments peut-être plus sociaux. Read this.
Can you?
Ah, yes, that's one.
We've watched you play the cat and every kind of game. At football, golf, and pool, you men have made your name. But now your country calls you to play your part in war. And no matter what before you, as your father did before. Oh, we don't want to lose you, but we think you have to go for your king and your country.
Donc, chanson de recrutement de 1914, voix d'opérette ou presque d'opéra, mais plutôt d'opérette. Interprétation, je pense qu'un des éléments, c'est la respectabilité de la voix d'opéra ou de la voix d'opérette. C'est-à-dire qu'autant les bourgeois, ils allaient à l'opéra parce qu'il faut bien aller à l'opéra. Même ceux qui ne l'aimaient pas, ils y allaient pour être vus parce qu'aller à l'opéra, c'est un symbole. Et cette symbole, je pense que dans le music hall, les voix d'opérette ou d'opéra très souvent utilisées, c'est une référence et nous aussi, nous avons de la valeur. Regardez, nous utilisons, nous connaissons aussi des parties de la culture savante. En tout cas, c'est mon interprétation, mais là, aujourd'hui, je voulais plutôt simplement montrer qu'il y avait beaucoup de questions qu'on peut se poser. Passons à la chanson et l'industrie, parce que c'est beaucoup d'argent. L'industrie musicale à cette époque, c'est beaucoup d'argent. Voici The Alhambra, le théâtre à Bradford, ouvert en 1914, donc justement au début de la guerre, 1400 sièges. Donc vous imaginez que ça coûte une certaine somme d'argent pour l'ouvrir. Et donc après, il faut faire l'argent. Les théâtres sont de plus en plus grands. Il y a de plus en plus d'influence des chaînes de théâtre qui ont 30 ou 50 théâtres. C'est un effet donc, de concentration de capital. Ce n'est plus le début du musical, c'est un petit pub qui ouvre une petite scène à côté. Mais là, c'est vraiment de la grande industrie. Comment on dit ça en français, ils sont déclarés en bourse. Ils ont des actionnaires et ils ont également, comme toute autre industrie, à certains moments, une crise de surproduction où il y a trop de théâtres de variété dans une ville pour le public. Parce que tout le monde essaie d'être le premier, le meilleur. Donc il y a une concurrence extrêmement dure. Alors, les questions qu'on peut se poser par rapport à l'industrie, qui est-il dans le public, quel est-il le prix d'un billet, comment se positionner le music hall contre les spectacles de musique savante, qui également existaient en masse, les municipalités, ils ouvraient des grands concerts de musique classique très peu chers, il y avait une concurrence, comment le music hall se défend contre le cinéma qui monte. Quant aux comédies musicales, tout cela sont des questions. Comment ces bâtiments reflétaient les structures sociales à cette époque? Commence, à la fin du 19e siècle, la tradition d'avoir des portes d'entrée séparées pour les différents niveaux. Il était impossible de passer de l'orchestre au balcon. Comme ça, on peut être sûr que les femmes des bourgeois ne vont pas être inquiétées par les ouvriers. C'est vraiment l'argument qui est donné, hein, parce que la vulgarité, ça s'attrape. C'est comme l'islam, quelque part. Ok. Ce n'est pas mon avis, hein, je me moque. comment ces bâtiments reflétaient les fantasmes du public. Le velours rouge, d'énormes statues orientales, des bouddhas, des éléphants, des chandeliers, les fantasmes, les rêves du public. Et qui était dans le public? Ici, nous avons une photo du public d'un musical du début du XXe siècle. Il y en a extrêmement peu. Pour tout vous dire, j'en ai une. Ça c'est en partie parce qu'il faut dire à tout le monde de ne pas bouger le temps de prendre une photo. Ok, ça n'aide pas. Vous devez en savoir quelque chose. Et puis aussi, je pense que les gens s'y intéressaient pas pour les. Alors, c'est extrêmement intéressant. Il y a des gens très jeunes. On sait des choses sur le musical parce que fréquemment il y avait des incendies, il y a des listes de victimes détaillées. C'est comme ça. C'est un peu macabre. C'est le vrai historien qui dit, ah génial, il y a beaucoup de morts, voilà une liste de morts. C'est terrible. Il y a des femmes, on peut identifier des femmes parce qu'ils ont un chapeau différent. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde a un chapeau. Mais il y a d'autres choses aussi. Je viens de remarquer ce matin qu'ici, nous avons 5 femmes alignées. Donc, on a l'impression que c'est un groupe de femmes qui sont allées ensemble. Probablement. Donc, il y a des éléments. Je l'ai regardé si souvent, j'ai vu ça ce matin. Donc, beaucoup de questions là. Nous avons très peu de photos. L'industrie aussi, développe des produits différents. Ici, ce sont les comédies musicales les plus populaires, les comédies musicales les plus populaires des années de guerre. Chuchin Chao, c'est une histoire de Ali Baba à la chinoise. Troisième année, hein, ça a duré 3 ans. C'est intéressant parce que ce qu'on peut dire sur les comédies musicales ou sur les autres produits, personne n'avait la touche magique. Celui qui avait écrit le grand succès, le prochain, ça pouvait être un navet. Comme aujourd'hui, personne n'a la touche magique, on ne peut pas garantir que quelque chose soit un tube. Et l'autre, The Maid of the Mountains, c'est une histoire de bandit italien, millième spectacle. Donc ça, c'était vraiment les grands, et ça, c'est beaucoup d'argent. La comédie musicale, beaucoup plus chère, et donc plus respectable, parce que les pauvres ne pouvaient pas y aller, au fond. Mais l'autre chose intéressante, c'est les deux grands succès, et les deux sont des histoires très lointaines, très très loin en Chine, très très loin dans les montagnes d'Italie. Et bon, il est difficile de ne pas y voir une volonté à échapper de la réalité. Surtout qu'avant la guerre, les comédies musicales étaient relativement terre à terre, The Shop Girl, avec des histoires de personnages relativement ordinaires. Alors, comment faisait le music hall pour se positionner sur le marché? Comment est-ce qu'il faisait pour arracher des parts de marché? L'introduction graduelle de 2 spectacles par jour, 3 spectacles par jour, 4 spectacles par jour. À Glasgow, à côté des docks, il y avait le premier spectacle de tous les jours, commençait à 10h du matin, pour les ouvriers qui sortaient de l'équipe de nuit. Alors c'est vraiment une industrie extrêmement puissante. À part les comédies musicales, il y a aussi les revues. Alors la revue, donc la soirée de musical traditionnelle, c'est des tours individuels. Il y a une quinzaine de tours individuels et chaque tour va durer 3 semaines ou 1 semaine ou 2 mois selon sa popularité. Ils sont engagés individuellement. Et c'est chanteur éléphant, chanteur la femme la plus grosse du monde, chanteur, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a tout ce qu'il vous faut de tours et chansons. La moitié, c'est des chanteurs. Tout ce qu'il vous faut, imitateurs d'animaux. Il y a tout ce qu'il vous faut de tours racistes, antisémites, misogynes. Tout est dedans. Et puis, bien sûr, les éléphants. Ça aussi, ça influe sur le chanteur. Parce que si vous arrivez sur scène après les éléphants et avant les acrobates, c'est difficile de faire très philosophique dans vos chaussons. Hein, donc, en fait, la revue, ça représente en fait une concentration de capital, mais aussi une concentration artistique. Ils ont des économies d'échelle parce que toute l'équipe fait une soirée entière et fait le tour du pays tous ensemble. Donc, ils font plus d'argent. Plus d'effets spéciaux, plus de danseuses. Parce que le tour individuel, il ne peut pas engager des danseuses. Il n'a pas, donc beaucoup plus de danseuses, c'était un des éléments qui attirait. Une autre discipline pour l'artiste, les artistes musicaux, ils finissaient à la revue parce que c'est là où il y avait de l'argent. Mais ils n'aimaient pas parce qu'ils n'avaient pas l'autonomie. Moins de chansons politiques. C'est plus concentré, mais plus de chansons romantiques, parce qu'il y avait le temps de construire une ambiance. Et puis, et bon, bien sûr, ça finit au, la scène de mariage, c'est à la fin, presque à chaque fois. Ok, et donc les partitions, j'en ai déjà parlé, qui sont l'autre élément qui vont beaucoup. Il me reste deux pages. Je veux passer à l'étude du répertoire. Hein, donc, l'histoire culturelle est toujours à la recherche de ce qui est mesurable. Pour ne pas tomber dans le panneau que a parfois frôlé l'histoire des mentalités, ou en tout cas l'histoire des mentalités a été critiquée pour le danger de l'anecdotique. Et alors, est-ce qu'on peut faire ça avec les chansons? Eh bien, j'ai essayé, j'ai réussi pour les années de guerre à avoir un corpus, 1143 chansons là. Et là, c'est simplement les mots qui apparaissent dans le titre. Alors, mes 1143 chansons, je pense que c'est à peu près un tiers de la production totale. Je peux pas être sûr. Et c'est les chansons les plus, comment dire, les plus vendues sont les plus représentées. Donc, il y a une certaine représentativité. Et on voit, je pense, assez clairement que les titres de chansons qui ont des mots d'insulte contre les Allemands, il n'y en a presque pas. Et de très loin, le gagnant, Home. C'est une certaine logique. C'est une certaine logique. Et encore, ça, c'est de 14 à 18. Si on enlève 1914, c'est encore plus net. Les chansons de recrutement disparaissent après 3 mois. Les chansons, c'est merveilleux d'aller à la guerre, tout cela. Ils disparaissent après 3 mois. Et j'ai essayé aussi de mesurer en les divisant par thème. Alors ça, c'est un peu plus subjectif, parce qu'on peut avoir une chanson d'amour qui parle de la guerre. Alors la division n'empêche que on voit que il y a quelques éléments qui sont intéressants. Irlande, très très grand. Home, bien sûr. War and Life in Wartime, Love. Role of Women. Alors, Role of Women, ça inquiétait et ça produisait des dizaines de chansons. Alors, je dois accélérer un petit peu. Je vais dire que une des choses qui manque aujourd'hui, c'est des travaux de comparaison. Déjà, il y a très peu d'écrits dans n'importe quel pays sur l'industrie musicale de cette époque. Mais là, il y a eu tout récemment cet truc sur les chansons pendant la guerre en France, et celui-là qui est un peu après la guerre en Nouvelle-Zélande. Et j'ai commencé maintenant à faire des comparaisons. J'ai fait une intervention sur les chansons, l'industrie musicale et les répertoires et processus de la musique populaire en France et en Angleterre en 1915. Et maintenant, j'ai lancé un projet de livre qui est la chanson populaire dans le monde pendant la Première Guerre mondiale. Et là, pour l'instant, j'ai 12 pays, 12 collègues de 12 pays. Je pense que j'espère que ça va être utile. Alors, je réduis un peu, mais je vais vous parler d'une des questions de recherche que j'ai explorées récemment. Et c'est cette catégorie, les chansons sur l'Irlande. Alors, pourquoi tellement de chansons sur l'Irlande? Alors, ce que l'on dit d'habitude, c'est que c'est parce qu'il y avait tellement d'Irlandais en Angleterre. Mais en réalité, ça ne suffit pas, parce qu'une chanson, ça doit faire chanter tout le théâtre, et il ne peut pas y avoir plus de 5% d'Irlandais dans la salle. Alors, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il y a 3 types de chansons différentes sur l'Irlande et les Irlandais. Il y a, marqué en bleu, des chansons plus ou moins raciste sur l'Irlandais imbécile qui fait des bêtises, parce qu'on sait que on sait entre guillemets que les Irlandais sont cons. C'est-à-dire que c'est le racisme anti-irlandais qui a accompagné le projet colonial anglais en Irlande. Donc Paddy Maloney's Aeroplane, vous imaginez que c'est un avion qui est construit qui marche pas trop bien. Très intéressant, de Yiddish Irish. Un enfant et les parents l'appellent Levi Carney, Jacob Barney, Isaac Einstein, donc mélangeant des noms très juifs et des noms très irlandais. Et à l'époque, c'est hilarant, parce que déjà un Irlandais, c'est rigolo. Un juif, c'est très rigolo, alors les deux ensemble, c'est extrêmement rigolo. Ça ne vole pas très haut. Deuxième type de chanson, donc en orange, c'est les rêves de le paradis rural perdu. Rêve qui avait déjà une incidence très forte en Angleterre parmi la classe ouvrière anglaise pendant le mouvement chartiste, etc. Et alors l'Irlande, ça devient un symbole utile d'un passé rural plus simple, plus communautaire, plus beau, où les paysages sont plus beaux et les filles plus patientes qu'ailleurs, parce qu'en général il y a la fille qui m'attend dans mon village à Killarney. Ils doivent s'emmerder, ces filles. Troisième version que j'ai découvert, que je ne m'y attendais pas, c'est toute une série de chansons qui fêtent ou qui célèbrent les sentiments communautaires des Irlandais. Et ce n'est pas pour les Irlandais, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on est jaloux quelque part et on aime voir les Irlandais chanter de comment les Irlandais, on est solides ensemble. If you're Irish, come into the parlor. Longish or Irish, you'll do. Et bien sûr, When Irish Eyes Are Smiling, qui est encore plus connu aujourd'hui. Alors, je dois terminer. J'ai pas tout dit, mais tout cela m'a permis de produire dans quelques publications. Ces deux-là, en fait, c'est mon livre. C'est presque le même. Donc, publié en français en 2012 et en anglais il y a 4 semaines. Et en plus, c'était fabuleux parce que puisque je l'ai traduit moi-même 2 ans après, j'ai pu rajouter plein de choses que je n'avais pas compris, qu'entre temps que j'ai compris, etc. Ici, donc, différents aspects, là sur l'utilisation de l'humour dans les chansons, là sur l'industrie musicale en 1900, la seule année de 1900, pour pouvoir avoir une focalisation très précise sur une industrie qui change très vite. 1916, même problème. Et là, c'était plus sur l'idéologie, sur comment la grande lutte contre la vulgarité dans le music-hall est un phénomène social de type moral panic qui vaut la peine d'être analysé. Et le tout dernier, celui-là, il n'est pas sur la même période, il est sur les festivals de musique ethnique en Angleterre depuis 30 ans. Alors j'ai dépassé par 3 minutes, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Merci.
Très particulière. Sur la liste des mots, il y avait Dixie, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est Dixie?
Non, en fait, il y a un grand nombre de chansons sur Dixie, des chansons anglaises, écrit par des Anglais, chanté en Angleterre. I want to go back to Dixie, back home in Kentucky. I can see myself back in Tennessee. Et ils ont 2 utilités. Tout d'abord, c'est encore un paradis rural lointain. Le public n'est jamais allé à Dixie, ne va jamais y aller. Mais deuxièmement, après la grande révolte irlandaise de 1916, ça devient un petit peu plus difficile de chanter l'Irlande. Et alors, on barre Irlande, on écrit Dixie, et c'est presque bon, hein. C'est-à-dire que ce sont les mêmes chansons. Sauf que, bien évidemment, quand on demande au public de s'imaginer à Dixie, on le demande de s'imaginer à la place des Blancs de Dixie et pas à la place des Noirs. Hein. D'ailleurs, même les Noirs apparaissent de temps à autre dans les chansons, chantant joyeusement dans les champs. C'est ce genre de choses. Mais très très populaire, hein, c'est surprenant.
C'est bizarre parce qu'il y a plus d'Irlandais au 19e siècle qui ont fait la guerre civile américaine pour le Nord que pour le Sud.
Ah.
Beaucoup plus. Donc le fait de dire Dixie, c'est bon.
Il faut que ce soit rural, je crois. Est-ce qu'on peut rêver du nord des États-Unis à cette époque? Oui, il fait froid, il y a les New-Yorkais.
C'est... La moitié sont irlandais.
Oui, déjà.
D'accord, c'est... ok. Ouais. Donc c'est Dixie.
Oui, c'est vraiment Dixie. Ouais. Il y avait aussi deux ou trois parodies des chansons de Dixie, parce que chaque catégorie, il y a aussi sa parodie qui marche aussi. Oui. Pas pendant la guerre, mais avant la guerre, il y avait des chansons super impérialistes et des chansons qui se moquaient des impérialistes. Il y a des choses. Bien sûr, il y a davantage des uns, mais quand même, la parodie est très, 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 très populaire.
Oui, justement, à propos de parodies, de satire, même éventuellement, est-ce que d'abord sur les périodes, que vous avez étudié, est-ce qu'il y a du cabaret plus politique? Et est-ce qu'il y a une porosité entre les genres? Parce que ça m'avait frappé dans l'Allemagne des années 20, une très grande porosité et des allers-retours incessants entre le cabaret politique, les petites formes de cabaret protestataire, et la grande industrie du musical, du grand cabaret, des revues, etc.
Il y a extrêmement peu de petits cabarets pour les politiques. En général, parce que pour gagner leur vie, il faut plaire, il faut être dans les chaînes de théâtre. Mais il y a une autre raison aussi, je pense que c'est par rapport à la respectabilité. Parce qu'en France, les paroliers, selon Anne Simon, les paroliers, c'est souvent des gens lettrés. Donc ils écrivent en dialecte ouvrier, mais c'est des faux dialectes ouvriers, et en fait c'est des gens lettrés. En Angleterre, non. Les paroliers, c'est pas l'homme prolétariat, mais c'est pas loin, hein. C'est des gens qui vont chercher les chanteurs dans les pubs. Ah, j'ai une chanson pour toi. Et les chanteurs, ils en achètent trois toutes les semaines. Hein. Et souvent, ils ne les utilisent pas, hein, parce qu'ils en ont trop. Et ils sont à la recherche du tube. Alors, peut-être une des raisons, c'est qu'en France, il y a depuis longtemps les droits d'auteur établis. Et alors, un parolier peut gagner un peu d'argent. En Angleterre, on écrit une chanson, on le vend pour 5 livres, et si ça vend 1 million, c'est un problème. Et donc, je pense qu'il y a ces choses. Donc, il y a très peu de politique, parce que le type de politique qui marche, c'est quand c'est ambigu. Donc, il y a une célèbre chanson, « Glasgow belongs to me », qui est encore connu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était fait avec un récitatif ouvertement anticapitaliste, qui disait les patrons, mais c'était un ouvrier de Glasgow qui a bu, alors ça aurait pu être le porte-parole du public, ou celui dont le public se moque, c'est au choix. Mais en général, les chansons de musical montrent très largement une identité de classe, et une défense des coutumes de la classe ouvrière, mais pas des intérêts de la classe ouvrière. Par contre, ils sont tout à fait capables de faire des spectacles de musical pour gagner de l'argent pour des grévistes. Mais le contenu ne va pas être politique. Le contenu ne va pas être politique.
C'est accessoire. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je me demandais s'il y avait une tradition de chant dans les écoles. Enfin, est-ce que le chant, c'est... Est-ce que pour que les gens aient chanté aux écoles, peut-être, est-ce que ça...
Il y a les deux choses. L'école primaire est obligatoire après 1870, dans les civilisations islamiques au courant. Et assez rapidement, des groupes de pression réussissent à mettre dans le programme la chanson folk anglaise, assez nationaliste. Et ça a duré très très longtemps. Quand moi j'étais petit, on nous faisait chanter les chansons de la guerre contre l'Espagne. Heart of Oak, are our ships, jolly tars are our men. Dans les années 60, alors il y a quelque chose de très bizarre, mais aussi c'était universel, c'est-à-dire que à Noël, chaque membre de la famille avait sa chanson qui chantait, son party piece, comme on dit. Et je sais que jusqu'à mon grand-père, il chantait Danny Boy. Et donc, trois fois par an, quand il y avait une soirée, on lui demandait. Et donc, ça, c'est quelque chose qui continue même dans les années 50. Ma génération, c'est la première génération à ne pas le connaître, je crois.
J'avais une question sur la réception. Ça doit être très difficile d'étudier ça, là, parce que vous dites que ce sont des chanteurs qui écrivent comme ça et puis qui vendent leurs petites chansons pas très chères. Est-ce qu'on peut mesurer le succès commercial? Bon, d'une part, est-ce qu'il y a des comptes rendus dans des journaux, des revues de l'époque?
Oui, il y a les deux choses. Alors, les comptes rendus dans les journaux locaux systématiques ne sont pas très utiles parce que tout est toujours merveilleux. Il n'y a pas une tradition de critique. Hein. À chaque fois, tout est merveilleux dans tous les choses. Alors bon. Par contre, le succès commercial, c'est possible parce qu'on a un peu de la chance. Déjà, tous les ans, les maisons d'édition, il y en a 3 ou 4 grandes maisons d'édition qui produisent les partitions. Et chaque année, chacun produit un livre, les meilleurs succès de l'année. Ah, donc ça nous donne déjà voilà, une vingtaine sur les quelques centaines qui sont meilleurs succès de l'année. Donc ça aide. Aussi, il y a quelqu'un qui connaissait très très bien le milieu, qui a établi un catalogue de ce que lui, donc c'est une position subjective, mais quand même, de ce que lui pensait être les 30 plus les 30 chansons les plus influentes de chaque année pendant 50 ans. Hein? Donc, c'est subjectif, mais quand même, c'est quelque chose. Mais sinon, en fait, dans la meilleure source, c'est la presse du métier. C'est-à-dire qu'il y a une presse hebdomadaire de l'industrie du music hall, là où les artistes, ils mettent leurs annonces. Je suis libre en août, qui veut de moi, hein? Et il y a aussi un hebdomadaire, ou est-ce que c'est quinzomadaire, du syndicat des artistes music hall. Et alors, ça c'est merveilleux. Et en général, justement, une chanson qui est un succès, c'est celui qui a une grande publicité. Achetez-le maintenant, parce que c'est comme ça que ça marche. Si ça a marché, s'ils ont la même publicité pendant 3 mois, c'est que ça a vraiment marché, quoi. Voilà, ça c'est, on a des moyens de savoir, mais bon, bien sûr, pas très précisément. Mais ça me semble essentiel parce que on ne peut pas distinguer entre un succès et un navet. Ça aussi, ça permettait de autre chose, c'est-à-dire que dans l'ensemble des chansons pendant la guerre, il y a à peu près un tiers qui traite de la guerre ou de la vie dans la guerre. Mais dans la liste des succès, de ceux que je sais que sont des succès, il n'y en a qu'un quart. Et alors, ça suggère que ceux qui écrivaient les chansons avaient l'impression qu'il y avait plus d'intérêt que ceux qui en avaient vraiment, ceux dont il y avait vraiment. Hein, c'est un problème de grammaire. Donc il y a quelque chose, mais c'est toujours un petit peu au conditionnel parce que les stats, c'est pas super, super sûr. Hein.